Ici Charles Ferron pour votre bulletin de nouvelles régionales de la semaine. Le Bureau de santé Porcupine autorisera la tenue de l'Halloween sur l'ensemble de son territoire samedi prochain tant que les enfants y participent en sécurité. La médecin hygiéniste en chef Liane Keaton encourage le public à rester prudent et continuer de respecter les mesures de prévention de la COVID-19 pour limiter la propagation du virus. Pour réussir à organiser la fête, le Bureau a donné plusieurs trucs et conseils pour récolter et distribuer des bonbons en minimisant les risques. La distanciation sociale, le lavage des mains et la limite des rassemblements doivent continuer à être respectés, mais le bureau conseille aussi de faire du porte-à-porte uniquement avec les membres de votre ménage et de distribuer des bonbons à l'extérieur. En addition, si quelqu'un ressent des symptômes qui pourraient être liés à la COVID-19, cette personne ne doit pas participer aux festivités. Le bureau de santé va continuer à surveiller le développement du virus d'ici le 31 octobre et se réservera le droit d'émettre de nouvelles directives si la situation change. Le comité de récréation d'Akapuskissing a recommandé au conseil municipal hier de concentrer leurs efforts sur des activités qui peuvent donner virtuelles pour les festivités du 100e si la COVID-19 cause toujours des ennuis en 2021. Le maire d'Akapuskissing, Dave Plourde, ne souhaitait pas entendre cette conclusion, mais il reconnaît que les réalités de la pandémie ont tout changé.
Le comité a choisi de célébrer le 100e à travers des activités virtuelles. Le temps passe vite et on veut pas manquer le bateau. Virtuel ou non, il y a beaucoup de planification à faire pour marquer le 100e. C'est une décision qui était très difficile à faire, mais nous devons le faire des choix responsables.
La proposition telle que présentée n'a pas plu au président du comité organisateur du 100e et conseiller municipal Julien Boucher, qui a partagé sa frustration en menaçant de remettre sa démission comme responsable des festivités. Il citait notamment le manque d'action de la ville pour embaucher un coordonnateur des événements spéciaux et le report des travaux qui étaient prévus pour l'organisation du centenaire. À ce sujet, M. Plourde dit comprendre la frustration des membres du comité organisateur.
Ça démontre seulement c'est le montant de stress que COVID place sur notre communauté. C'est très difficile de planifier des activités en entour. Je pense que n'importe quel business, n'importe quel restaurant, n'importe quel commerce, ils passent tout à travers de ça.
En entrevue, le maire a indiqué que la situation semble s'être réglée après quelques discussions avec Julien Boucher. La directrice de l'hôpital Notre-Dame de Hearst, Lisa Fortier, espère que les citoyens de la ville ne relâchent pas leurs efforts avec la deuxième vague qui a maintenant commencé en Ontario. Rappelons que 2 cas ont été annoncés dans la région de Hearst et de Hornpain la semaine dernière par le bureau de santé Porcupine. Madame Fortier ajoute qu'elle est fière du comportement actuel de la population, mais elle demande également aux résidents de continuer à faire attention en respectant la distanciation sociale et en portant le masque. À Hearst, actuellement, le centre de dépistage est géré par l'hôpital depuis le 2 octobre et il faut obligatoirement obtenir un rendez-vous pour être testé. La municipalité de Mathèse-Valcôté fait face à d'importants problèmes financiers dus à la fermeture d'une station de compression de TC Energy située près de la communauté. Cette situation se traduit en déficit d'un demi-million de dollars pour le petit village qui n'a maintenant pas le choix de réviser un budget à court de 20% de ses fonds. L'administration de Mathèse-Valcôté doit donc couper ou suspendre certains services pour combler le déficit. Le maire Marc Dupuis sollicite l'aide des résidents pour trouver 500 idées pour économiser 1000 $ afin d'éviter des coupures ou une augmentation des impôts municipaux. Il a également soumis une demande d'aide financière à la province dans l'espoir d'alléger l'impact des pertes. Le député provincial Guy Bourgoin appelle le ministre ontarien des Affaires municipales et du Logement Steve Clark à intervenir dans ce dossier. Une nouvelle étude de faisabilité a été lancée afin de savoir s'il est possible de construire une route permanente liant les communautés de la baie James à l'autoroute 11. Le lien pourrait se faire à partir de la Première Nation de Constance Lake ou de l'ancien site de Fraserdale au nord de Spruce Rock Falls. Le député provincial Guy Bourgoin avance qu'une telle route pourrait grandement aider le développement économique des communautés liées. Il dit avoir discuté avec le grand chef de la nation Mushkegawuk, Jonathan Solomon, qui lui a mentionné qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais plusieurs communautés participent au projet pour le faire avancer. Il resterait à compléter l'évaluation de l'impact environnemental et d'établir les coûts. La Semaine nationale de l'immigration francophone aura lieu cette année du 1er au 7 novembre. À Kapuskasing, la tenue de l'événement a été approuvée par le conseil municipal hier soir. Le maire Dave Plourde a donné plus de détails à ce sujet en entrevue.
La ville de Kapuskasing est fière d'être francophone et de participer dans toutes les occasions pour offrir et pour promouvoir la francophonie. Et surtout d'ouvrir les portes à l'opportunité d'accueil la diversité. On est chanceux d'avoir des partenariats avec l'organisme qui appuie l'immigration francophone et vraiment, je leur lève mon chapeau.
Il faut rappeler que l'événement est organisé en partenariat avec la Société économique de l'Ontario, le Réseau d'immigration francophone du Nord et l'Université de Hearst. Voilà, c'était votre bulletin de nouvelles régionales pour cette semaine. C'était Charles Ferron.